Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast qui me plaît déjà beaucoup. C'est un épisode où on va parler d'apothéosis. J'espère que je ne me trompe pas de mot, parce qu'à chaque fois, entre l'anglais, le français, le grec, le machin... Alors, ça s'appelle l'apothéosis, voilà. Et à ne pas confondre avec l'apostasie. Voilà, c'est l'apothéosis. Et c'est marrant parce que... C'est un phénomène et c'est un mouvement et un, comment dirais-je, un courant de pensée aussi qui est vachement populaire dans le monde antique, que ce soit dans le bassin méditerranéen ou ailleurs, puisque c'est vraiment quelque chose qui a existé dans tous les foyers de civilisation, même ceux qui n'étaient pas en contact les uns avec les autres. Par exemple, moi, je viens d'Afrique de l'Ouest et c'est vraiment très populaire en Afrique de l'Ouest de faire ça. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apothéosis ? L'apothéosis, c'est vraiment le fait de passer d'un état humain à un état divin. Donc, ça nous vient du grec. Alors, je ne sais pas lire le grec, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, apothéosis, c'est un mot qui est grec. Qui vient d'apothéo. Et c'est le verbe qui signifie diviniser quelqu'un, déifier plutôt quelqu'un. Et en fait, c'est un principe de divinisation et c'est un principe de déification. Et en ça, je trouve ça hyper intéressant et ça va particulièrement assaisonner l'épisode dont on va parler aujourd'hui, qui va parler des différentes facettes de Vénus. Et vous allez un peu mieux, comprendre la relation qui existe entre les hommes et les archétypes. En fait, quand on lit Jung... ou d'autres qui ont écrit sur les archétypes, quand on lit Jung, quand on lit Richard Tarnas, quand on lit Rene Butler, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des archétypes ont une relation particulière avec les êtres humains. L'un se nourrit de l'autre, en fait. C'est marrant parce que archétype, dans sa racine étymologique, rappelle beaucoup le mot moule, le fait de mouler quelque chose, de définir en fait un cadre, de définir un standard, un canon. Et en même temps, quand on cherche l'origine la plus profonde des archétypes, des signes astrologiques et compagnie, c'est évidemment la civilisation humaine. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, même si voilà, dans certaines croyances, notamment chrétiennes, on va vous dire en fait que ça a été transmis par des démons, qu'on n'était pas censé avoir toutes ces connaissances-là, que ça a été transmis par des êtres supérieurs, d'ailleurs, que ce soit des anges ou des démons, dans certaines versions et dans certaines traditions, c'est des anges, et dans d'autres versions et dans d'autres traditions, ce sont des démons. Toujours est-il que cette relation particulière entre l'humain et le divin, elle a toujours existé, et que pour moi, l'apothéosis, c'est vraiment un des chapitres les plus importants de cette histoire entre l'humain et le divin, puisque pour moi, c'est vraiment l'apothéosis, alors qu'elle soit faite de manière volontaire ou vécue de manière involontaire, je m'expliquerai plus tard, c'est vraiment pour moi une action de l'humain qui essaie de rattraper en fait le divin, de se dire ben moi aussi en fait j'ai une part de divinité, moi aussi je mérite de siéger parmi les dieux. Et c'est marrant parce que dans cette apothéosis on a alors est-ce que Ganymède est réellement devenu un dieu? Je ne pense pas, il était un peu hybride entre les deux, mais on a plein d'histoires comme ça d'êtres humains qui ont été capturés par les dieux, élevés au-dessus de toute chose, et qui sont devenus eux-mêmes des dieux. D'ailleurs, c'est un des sports préférés des dieux grecs et romains, de faire souffrir le martyr à deux ou trois personnes, et ensuite de leur dire, mais grâce à tes souffrances, ne t'inquiète pas ma chérie, tu vas rentrer dans la fame éternelle, je vais placer tes étoiles dans le ciel et tu vas devenir un dieu. J'adore ce phénomène l'apothéosis. Quand j'étais petit, c'était vraiment l'un des phénomènes, je pense, qui m'intéressait le plus. Tout simplement parce que ça montre, en fait, une part de dignité à la race humaine et comment, en fait, l'humain essaie de rattraper le divin par ses propres moyens. Alors, souvent, dans les cas d'apothéosis, c'est quand même des choses extraordinaires. C'est souvent les héros qui sont divinisés pour être remerciés de leur bravoure, de leur courage. Donc, c'est souvent en accomplissant des tâches extraordinaires. L'une des apothéosis les plus connues est évidemment celle de Jésus-Christ, qui du coup est né homme et en fait retourne à son état divin après sa mort, mais il n'est pas mort. Et juste après, dans le monde ancien, en tout cas dans le monde antique, et donc avant la naissance de Jésus-Christ, c'est évidemment Hercule, qui du coup est né héros. Donc dans la vraie version d'Hercule, c'est pas l'enfant d'Héra, c'est un espèce de demi-dieu un peu bâtard, voilà, c'est un espèce de demi-dieu un peu bâtard, du coup, qui hérite de la force jupitérienne de son père et du statut humain de sa mère. Il me semble que sa mère, c'est Alcmène, mais peut-être que je me trompe. Il y a tellement de versions, en fait, différentes du mythe d'Hercule. Bref, tout ça pour dire que tout ça, ce sont des exemples d'apothéosis. Et en fait, dans cet épisode, on va peut-être moins parler de ce sujet qui me passionne et qui m'obsède et qui est un peu démoniaque quand même comme sujet, parce que voilà, l'origine de l'apothéosis, d'après ce qu'ils disent, hein, les sources officielles, c'est toujours très blanc, très eurocentré, très occidental. Mais voilà, ils disent quand même que ça, avant, bien avant la période méditerranéenne, pardon, la période grecque, je dis méditerranéenne parce qu'il n'y a pas que les Grecs, en fait, à l'époque, qui étaient un foyer de civilisation, il y avait plein d'autres gens. Voilà, mais en tout cas, tout ce bassin-là trace l'origine de l'apothéosis à l'Égypte antique, avec l'architecte Imhotep qui a été déifié après sa mort. On avait vraiment comme ça le passage automatique, en tout cas avec les nobles et les proches de Pharaon, une espèce de déification automatique où on était un homme et on devient un dieu. Et je ne vais pas vous faire peur, mais en fait, cette méthode-là et cette inspiration-là a été gardée par les peuples nilotiques, donc les peuples qui faisaient partie de la vallée du Nil, et qui ont ensuite traversé le Nil pour aller s'installer un peu partout dans la zone du fleuve Niger, si je ne me trompe pas, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et qui a donné naissance à plein de civilisations qui ont elles-mêmes fait de l'apothéosis le centre, en fait, de tout ça. Je pense au Yoruba, au Nigeria, où en fait on vous dit que Oba, Oshun, Ogun, Obatala et toutes les divinités en fait du panthéon Yoruba sont des personnes qui ont vraiment existé et par leur courage, par leur vertu, par leur beauté aussi pour les femmes, ont été déifiées et transformées en divinités. Donc maintenant on revient un petit peu, maintenant que l'intro elle est posée. On revient au sujet principal qui sont les différents archétypes de Vénus, donc les différentes déclinaisons de Vénus. Et du coup, vous devinez que derrière ces différentes déclinaisons et ces espèces de déifications vénusiennes, on a, à mon avis, des profils de femmes qui se sont vraiment illustrées. Alors, c'est Vénus, hein, donc par leur beauté, leur charme, leur sens des relations, leur sens de la négociation, de la stratégie. On va faire le tour de tous les archétypes. Hein. Mais voilà, de toutes ces choses-là, et qui ont été élevés au-dessus de toute chose, élevés, bon, pas de toute chose parce que c'est pas Dieu, mais en tout cas élevés au-dessus de la masse pour devenir des espèces de... Moi, je pense que les apothéosis, à l'époque, c'est l'équivalent de la notoriété, de la fame, en fait, aujourd'hui. Voilà. C'est tout simplement qu'on ne savait pas comment traiter les êtres qui étaient excellents. On pouvait pas leur donner du pouvoir politique, donc à mon avis, on leur donnait du pouvoir religieux et spirituel, et c'est comme ça qu'on avait toutes ces apothéosis. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de parler d'apothéosie spécifique et de parler plus précisément de Vénus et de la manière dont elle a influencé les différentes sociétés grecques et romaines. Mais là, aujourd'hui, on va parler des Romains, puisqu'on parle de Vénus et pas d'Aphrodite, contrairement à l'épisode précédent. Et donc ici, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a 12 profils de Vénus, chacune portant une essence singulière et qui reflète la diversité des expressions de l'amour, de la beauté et des relations dans notre monde et particulièrement dans la société romaine de l'époque. Et ce que je trouve vraiment stylé avec ces archétypes cosmiques, c'est qu'ils sont représentés parfois par des archétypes de signes. Et donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de ça aujourd'hui. Moi, je voudrais vraiment me concentrer sur les archétypes vénusiens. Et puis, si on trouve des proximités avec les signes, j'ai envie de dire tant mieux. Mais ce n'est pas le but, quoi. Donc, dans les mythes et légendes, les hommes et les femmes exceptionnels ont parfois été élevés au statut divin. Donc, si vous aimez la mythologie grecque, vous savez très bien que le processus d'apothéosis, c'est quelque chose qui est courant dans la mythologie grecque. À chaque fois que quelqu'un accomplit un acte vertueux et spectaculaire, on a toujours un dieu qui traîne là, il n'avait rien à faire, il sort d'un mur et il le transforme lui-même en dieu, c'est incroyable. Et donc, ça crée en fait de nouvelles idoles, ça crée de nouvelles figures vénérées et déifiées. Et parmi certaines d'entre elles, certaines deviennent très populaires et en fait obtiennent un culte parfois même encore plus grand que la divinité qui l'a nommée, quoi. Enfin, moi, je pose évidemment mon regard très chrétien sur la chose, donc je trouve ça tout à fait diabolique et démoniaque. Enfin, j'ai jamais entendu parler de Dieu qui nomine d'autres dieux. Par contre, des démons sous couverture de Dieu qui s'amusent à se donner du pouvoir entre eux, des systèmes d'obéissance, de loyauté, de machin, ça, par contre, ça me parle un peu plus. De manière similaire, l'astrologie en fait va offrir une perspective qui est fascinante avec les 12 incarnations distinctes de Vénus, chacune représentant une facette unique de l'amour et de la féminité. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de faire de l'astrologie archétypale. On n'a pas besoin qu'il y ait des astrologues qui mettent au point des formules mathématiques pour nous calculer où se trouve la Vénus Anadyomène, où se trouve la Vénus Victrix, etc. Même si au moment où je vous parle, je suis sûr qu'il y a des astrologues qui sont en train de le faire et qui sait. Ça se trouve, c'est mon destin de le faire et j'ai juste la flemme. On va commencer par les 12 incarnations distinctes de Vénus. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer la manière dont les femmes romaines à l'époque se dévouaient à l'une ou à une autre facette de Vénus. Ce qui est marrant parce que c'est très similaire au vaudou, hein. Cette manière de prier, c'est en ça que je trouve ça vraiment déloyal, lâche et complètement immoral. Et comment dirais-je Je sais pas, juste, je trouve même pas les mots en fait, mais en tout cas, je trouve que le jeu que les grandes religions jouent avec les religions traditionnelles et les religions spirituelles des pays du Sud est vraiment ridicule, parce que quand on épluche, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes entre les deux, quoi. Bref, tout ça pour dire que donc ces nanas s'adressaient individuellement à des facettes de Vénus, tout en sachant qu'elles sont en train de prier la Vénus principale, mais parce qu'elles ont des problématiques qui sont spécifiques, elles s'adressent à des facettes de Vénus. Donc on commence par... Alors évidemment j'en ai sélectionné 12, il y en a beaucoup plus, hein, parce que voilà, les femmes ont beaucoup de problèmes, les hommes aussi ont beaucoup de problèmes, mais du coup les femmes ont des problèmes très complexes et diversifiés, donc là il y en a 12, mais il ne tient qu'à vous d'aller explorer du coup les autres versions de Vénus. Moi je vais en citer aujourd'hui que 12, 12 c'est déjà beaucoup. Donc on va commencer par la Vénus Anadyomène, et en fait... Vous verrez que la Vénus Anadyomène, c'est l'une des Vénus préférées des artistes, parce que c'est une Vénus qui symbolise la renaissance de la créativité, la renaissance de la fertilité artistique. C'est une Vénus qui incarne la naissance de la beauté. Et en fait, Anadyomène, ça veut dire quoi? C'est la Vénus qui sort des eaux. Voilà. Donc c'est vraiment une renaissance personnelle, à la fois personnelle et aussi dans le domaine des relations. C'est vraiment une véritable revanche en fait sur la vie. C'est cette Vénus qui est inanimée peut-être en scorpion, et qui renaît de ses cendres, toujours en scorpion, ou alors qui revient en taureau pour être un peu plus à l'aise, et qui triomphe en fait hein, du mal en se restaurant elle-même. Donc c'est vraiment une très belle Vénus, comme je vous ai dit, c'est l'une des Vénus préférées des artistes, et vous verrez que dans beaucoup de représentations de Vénus, elle sort des eaux, et donc l'une des Vénus les plus connues, et l'une des Vénus les plus révérées et préférées par les artistes, c'est évidemment la Vénus Anadyomène. Ensuite, on a la Vénus Génétrix, et donc ça, par contre, c'est ma Vénus préférée. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a donné envie de faire cette série, puisque je connaissais déjà cette Vénus depuis le collège, je pense, parce que j'ai eu la chance, et vraiment gloire à Dieu, j'ai des frissons, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs d'histoire qui sont passionnés et qui m'ont vraiment nourri mon cerveau de lune en Gémeaux, ultra assoiffé de connaissances et d'informations. Et vraiment, gloire à Dieu, bon, j'ai eu des profs d'histoire de merde aussi, hein, mais quand même, j'en ai eu deux ou trois qui m'ont bien marqué et qui ont été juste exceptionnels, quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai mon regard d'adulte, donc je me dis, bon, il y en a un qui était raciste, l'autre, il était machin, mais bon, ça prouve bien que la connaissance n'a ni couleur, ni race, ni... Bon, si, évidemment, parce que ça peut influencer le jugement, mais en tout cas, quand on est passionné par ce qu'on fait, je trouve, hein, c'est mon avis personnel, c'est un avis personnel qui est quand même basé sur des expériences d'avoir côtoyé des professeurs qui sont racistes et homophobes, je trouve quand même que quand les gens sont passionnés, il y a quelque chose qui se passe et ça transcende un petit peu justement les biais, que ce soit sexiste ou enfin les femmes, je pense. Qui écoutent le podcast peuvent témoigner, hein. On a des profs qui sont vraiment sexistes et ça conditionne la manière dont ils vont vous transmettre l'information. Voilà, mais ça conditionne pas l'information et il faut se concentrer sur l'information. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment eu des profs d'histoire fantastiques. Et donc j'ai eu un prof d'histoire qui m'a beaucoup parlé de Jules César, parce que c'est son taf, hein, c'était le programme, quand même. Et en fait, il est dit que Jules César, ou en tout cas lui-même a dit, pour pouvoir gonfler un peu sa cote de popularité, qu'il était descendant de Vénus elle-même. Et donc, débat parmi les philosophes et les théocrates, I guess, en tout cas en romantique, pour dire que ben non, en fait, Vénus, par essence, est libre, célibataire. Voilà, pleine de vie, elle n'est pas là pour tomber enceinte de je ne sais quel mec, enfin de fuck. Et en fait, non, on a parlé à ce moment-là de la Vénus génétrix, du coup, qui est une facette de Vénus qui est très liée à la maternité, à la naissance, à la création. Et en fait, c'est une facette de Vénus qui guide vers la fécondité dans toutes les dimensions de la vie. Donc, c'est pas juste pousser des bébés, mais être fertile dans le monde professionnel, être fertile dans sa propre vie, être fertile pour son art et sa créativité. Tout ça, c'est Vénus génétrix. Et c'est ma Vénus préférée. Parce que je trouve que c'est une Vénus qui se rapproche beaucoup de l'archétype du cancer. Très innocente, et en même temps très responsable et mature, parce que bah, c'est une Vénus qui va porter la vie. Et en même temps, ça, je trouve ça trop beau. C'est vraiment la transition entre la vie de femme et la vie de mère. Et voilà, pour avoir vécu avec une mère qui, bah, du coup, qui était très jeune, et l'avoir vue, du coup, transitionner de femme à mère, de mère à femme, de femme à mère, de mère à femme. C'est quelque chose de très beau, en fait, à observer en tant qu'enfant. Et j'ai vraiment du privilège, hein, à avoir été dans cette position. Faut pas voir le fait de grandir avec une femme en tant qu'homme comme quelque chose de négatif ou d'amoindrissant, hein, parce qu'on a des conversations entre nous, entre mecs, et... Enfin, moi, je connais pas beaucoup de mecs qui disent publiquement qu'ils sont hyper fiers d'avoir grandi avec une mère, en tout cas dans un foyer monoparental. Mais bon, ça, c'est moi. Peut-être que je fréquente pas les bonnes personnes. Et en ça, la Vénus génétrique, je la trouve magnifique, quoi. Vraiment, au point que ça m'a même donné l'idée de créer une nouvelle solution sur Mythologie Astrale qui va s'adresser, du coup, spécifiquement aux mamans. Et donc, pour la première fois sur Mythologie Astrale, je vais pouvoir interpréter le thème des mineurs. Voilà, donc c'est un truc sur lequel j'avais fait une croix depuis longtemps. Parce que, bah déjà, un, j'étais un jeune astrologue. Et c'est beaucoup de responsabilités. Et deux, j'avais trop peur en fait. J'avais peur des répercussions karmiques. J'avais peur de. Et ensuite, je me dis, oh là là là, attends. Oh. En fait, les gens, ils veulent que tu interprètes le thème de leur enfant. Un, ça veut dire qu'ils ont confiance en tes capacités. Et deux, ça veut dire qu'ils ont quand même assez de recul pour faire la part des choses et se dire qu'ils vont pas copier-coller ce que tu dis dans la destinée des enfants. Mais moi, c'est un peu. J'avais vraiment ce problème de confiance où je me disais, vas-y, en fait, les gens. Des fois, c'est un peu des branquignoles et c'est pas parce que tu deviens parent que tu acquiers automatiquement, par défaut, 250 tonnes de données sur la parentalité et sur le monde qui te rend automatiquement plus sage. Il y a plein de parents qui sont complètement inconscients. Voilà. Donc, c'était vraiment ces voix-là, en fait, qui se battaient en duel dans ma tête. Et un jour, il y a une auditrice du podcast qui m'a un peu roulé. Elle m'a pas dit exactement... que c'était son gosse et en fait c'était dans un truc qui était groupé, donc moi je fais la première commande, je fais la deuxième commande et en fait c'est la troisième commande que je me rends compte qu'en fait par rapport à la date de naissance, mais ben, en fait c'est un gosse, enfin c'est à moins que ce soit une entreprise et qu'elle m'ait demandé de faire une comparaison par rapport à une entreprise, en fait c'est un gosse. Et donc j'ai pété un câble contre Jimmy qui m'aide et tout et qui génère les charts et tout pour moi. Et en fait, il m'a dit, ouais, mais en fait, j'avais pas vu, etc. Et après, je me suis dit, mais mince, en fait, ça devrait pas me mettre dans tous mes états. Et du coup, j'ai interprété, en fait, le thème de l'enfant tout en faisant. Alors, elle a dû détester l'expérience, mais j'ai fait un disclaimer, mais d'au moins, je sais pas, peut-être un quart d'heure en cumulé sur les répercussions du fait de se baser sur une lecture compréhensive de thème astral pour définir la destinée complète de quelqu'un, quoi. Voilà, parce que je veux pas avoir cette responsabilité-là sur les mains, sur les épaules ou n'importe où ailleurs d'ailleurs sur moi, parce que c'est quand même conséquent, quoi. Diviniser, prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et ensuite, je me suis rappelé qu'en fait, non, le thème de quelqu'un est là pour refléter une vérité qui est intangible et qui est éternelle, enfin éternelle dans cette vie en tout cas. Donc en fait, non, tu ne condamnes pas quelqu'un en interprétant son thème, surtout par une interprétation d'astrologie archétypale où on n'est pas en train de chercher... des événements marquants dans sa vie, voilà, où il va falloir qu'il achète une voiture bleue au lieu d'une voiture rouge. Donc voilà, donc ça va vachement. Et puis entre-temps, enfin, moi j'avais analysé plus de 500 charts, donc j'étais déjà un peu plus confiant sur mes capacités en tant qu'astrologue. Et du coup, voilà. Et donc, suite à ça, j'ai pris la décision de pouvoir désormais interpréter les thèmes astro des enfants. Donc il existe déjà le Sarai. C'est un petit package dans lequel il y a deux thèmes astro, donc le thème du parent, que ce soit une femme ou un homme, hein, et le thème de l'enfant et une synastrie ensuite entre les deux, donc tout cumulé en bundle. Donc ça, ça existe déjà, n'hésitez pas d'ailleurs à le commander. Et en fait, la Vénus génitrix, j'avoue que je l'adresse plutôt à des femmes, de préférence des femmes divorcées ou célibataires, et de préférence des femmes qui ont eu leur enfant jeune, voilà. Donc évidemment, c'est accessible à tout le monde, mais c'est vrai que la solution, elle s'adresse d'abord à des femmes qui ont eu leur enfant jeune. Et donc ce truc de passer en fait de la féminité à la maternité, c'est un truc qui me fascine et j'aimerais beaucoup accompagner en tout cas des gens. Alors d'accompagner, j'ai pas accompagné les gens vers la grossesse, hein, mais voilà, en tout cas expliquer, éclairer, si ça peut aider à mieux comprendre, à pacifier certaines tensions, etc. C'est avec grand plaisir. Et donc, du coup, on a le Sarai qui fait ça. Et ça, c'est vraiment un bundle quand vous voulez vraiment avoir un full package du truc. Et on a le tout nouveau Venus Genetrix que vraiment... En fait, Venus Genetrix, c'est une solution que j'ai voulu proposer, je pense, sur Mythologie Astrale avant même que le podcast, il existe, quoi. Je réfléchissais à plein de trucs et je me suis dit, waouh, j'aimerais trop explorer cet archétype de la Venus Genetrix qui me fascine parce que c'est bien connu. Venus doit rester célibataire. Elle doit rester libre, elle doit rester jeune, belle, sexy pour être disponible pour tout le monde. C'est hyper glauque d'ailleurs. Et en fait, la Vénus Genetrix, c'est un peu, elle fait un peu un pied de nez à tout le monde en disant donc, bah, non seulement je vais m'être bien avec le mec qui me plaît, mais en plus de ça, je vais peut-être lui faire un gosse et je vais garder le gosse pour moi en fait. Donc c'est hyper rock'n'roll. Hein. J'incite personne à faire ça parce que c'est super dur d'élever un enfant seul. Mais ouais, moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué dans l'archétype de Vénus Genetrix. Je la trouve très rock'n'roll. En ça, très indépendante, très libre, en fait, de faire tout ce qu'elle veut, parce que c'est Vénus et que Vénus fait tout ce qu'elle veut, en fait. Voilà, donc la Vénus Genetrix. Voilà, donc on avance. Je sens que cet épisode va durer 1000 ans. On va avancer un peu plus vite. Ensuite, on a la Vénus Victrix. C'est la Vénus victorieuse. Et en fait, elle symbolise la victoire dans l'amour. Donc, c'est hyper beau. J'adore cette Vénus. Je la trouve très sexy. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est vraiment la personne qui va planifier, stratégiser, aiguiser ses couteaux et ses dents pour pouvoir attaquer quelqu'un amoureusement, conquérir le cœur, en fait, de cette personne et la prendre pour lui ou pour elle. Je trouve ça tellement beau. Moi, je suis un romantique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau... Voilà, d'ailleurs, l'un des trucs qui m'a le plus convaincu de me convertir en tant que chrétien, c'est cette espèce de relation très romantique, en fait, entre Dieu et les âmes de ses serviteurs. Cette espèce de position presque de courtisan, parfois, de Dieu qui veut occuper la plus grande partie du cœur de ses fidèles, qui ne veut pas être mis en, en compétition, en comparaison avec d'autres dieux. Enfin voilà, je trouve quelque chose. Enfin, c'est trop beau, quoi. Moi, vraiment, cette Vénus Victrix, je trouve qu'elle symbolise ça. La victoire de l'amour, la victoire dans l'amour. Et c'est une belle inspiration pour surmonter les défis relationnels. Parce que, enfin, rien que d'en parler, je suis hyper triste parce que je suis sûr que j'ai du karma par rapport à ça. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez l'amour de votre vie? Et en fait, 10 ans plus tard, ben, l'amour de votre vie rencontre l'amour de sa vie. Et en fait, c'était pas vous. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites, en fait? Est-ce que vous prenez les armes? Est-ce que vous vous battez? Ou est-ce que. Est-ce que vous vous laissez faire et en fait, l'amour de votre vie se casse, quoi. Je pense qu'il n'y a pas plus grande blessure que les blessures amoureuses. C'est pour ça que vraiment, souvent j'en parle en fait avec mes potes et je leur dis la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'on me divorce en fait. Que je rencontre vraiment la personne idéale et que tout se passe bien et le mariage et les enfants et compagnie. En fait, vous n'y attendez pas, tout va bien, hein, tout roule. Sauf qu'en fait, tout ne roule pas. Il y a toujours des choses qui se passent en coulisses. Et un matin, vous arrivez au boulot ou chez vous et il y a les papiers du divorce sur la table, quoi. Je suis désolé si ça trigger certaines personnes qui ont traversé ça, mais franchement, je pense que je me tirais une balle, quoi. Genre, et je dis pas ça en mode « Oulala, attention, je fais pas l'apologie du suicide, hein, faut pas aller... Hey. » Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont déjà au fin fond de la darkness, dans un trou quelque part. Voilà, faut pas utiliser ce que je dis pour passer à l'action et tout, chacun se gère. Mais voilà, j'ose même pas imaginer en termes de... En tout cas, moi, à titre personnel, en termes de self-esteem et compagnie, l'impact que ça pourrait avoir sur moi, quoi. Je pense que ça me détruirait plus qu'un échec commercial, un échec en termes de business ou une humiliation en place publique, quoi. J'aurais vraiment l'impression d'avoir tout perdu. Enfin bref, et justement, cette Vénus Victrix, c'est la Vénus qui dit non, en fait, je vais pas me laisser faire. Cet amour, c'est l'amour de ma vie et en fait, je vais le prouver. Parce que voilà, l'amour, en fait, en français... Et dans le monde réel, il faut le prouver, en fait. C'est pas quelque chose qui... Évidemment, c'est quelque chose qui est dû parce que tout le monde mérite d'être aimé inconditionnellement. C'est notre droit en tant qu'être humain. Mais on vit dans un monde... Hello, Chris, ça me plaît, je te transmets la vie de... Ok. Voilà, il faut se battre, en fait. Voilà, faut pas se laisser faire, faut se battre. Et Il faut se battre jusqu'au bout et il faut se dire qu'au moins on s'est battu. Et en fait, c'est ça qui m'énerve parfois avec certaines personnes qui dissocient complètement l'amour de la guerre. C'est deux manières complètement différentes d'atteindre ses objectifs, mais ça reste quand même voilà, deux mondes dans lesquels il faut faire preuve de stratégie, il faut faire preuve de respect envers soi-même et de respect envers ses adversaires. Et voilà, parfois, en fait, il faut voir l'être aimé comme un adversaire qu'il faut vaincre, en fait. Il faut vaincre ses peurs, il faut vaincre ses démons, il faut vaincre ses réticences, il faut vaincre ses doutes. Pour les plus puissants d'entre nous, il faut vaincre les traumas. Et je dis pas qu'il faut s'attacher de manière désespérée à des gens, hein. Faut pas les faire comme dans le documentaire sur les Twin Flames là qui est sorti sur Netflix et qui, je trouve, est superbe parce qu'il expose vraiment le côté sombre en fait des Twin Flames. Mais il faut quand même se battre, voilà. Et je pense que c'est pas un hasard si j'ai attendu aussi longtemps avant de commencer à parler de relations et d'amour. Je pense vraiment que c'est un sujet qui est tabou pour moi avec ma maison 12 en balance, avec Mars en balance dedans. Mais aujourd'hui, j'ai le courage d'en parler parce que je pense que certaines personnes en ont besoin. Donc voilà. Par contre, attention, hein, faut pas commencer à m'envoyer des mails en mode moi je veux la Vénus Victrix, moi je veux la Vénus Verticordia, moi je veux la Vénus Félix. Non, 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 non. Là, la seule solution que je propose en dehors du Sarai, c'est la Vénus Génétrix parce que c'est vraiment ma go. Voilà, et peut-être un truc un peu plus large, que je vais appeler l'Aphrodite. Et là, par contre, il sera vraiment sur les énergies féminines et le fait de révéler les énergies féminines, parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte, c'est normal, je suis un homme, donc je dois d'abord me gérer sur ma masculinité. Mais clairement, aujourd'hui, 2024, la féminité est clairement attaquée. Voilà, il y a vraiment une guerre qui est menée contre le féminin divin, le féminin sacré, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein. Je suis pas né de la dernière pluie, mais là, ça commence à vraiment s'intensifier, donc en réaction à ça, c'est normal que les lightworkers commencent à proposer aussi des solutions qui vont dans ce sens-là pour aider les gens, justement, à progresser sur ces questions qui sont liées à la féminité et à la créativité. Donc ouais, Vénus Victrix, elle est aussi dans mon top 5. La victoire de l'amour et la victoire dans l'amour. Ensuite, on a la Vénus Félix, et c'est la Vénus alors qui n'est pas forcément associée au bonheur, mais c'est une Vénus qui est associée à la chance. Et en ça, elle incarne parfaitement l'un des archétypes de Vénus, qui est vraiment en fait Fortuna, quoi. On pourrait l'appeler la Vénus Fortuna. C'est la représentation pure de la chance dans l'amour et dans la vie. C'est une Vénus qui va vraiment conseiller le fait d'embrasser les opportunités avec optimisme. C'est la Vénus qui va dire oui, en fait, mets ta plus belle jupe et va marcher sur le Sunset Boulevard à Los Angeles. Et tu verras, tu vas te faire repérer par plein d'agents, de mannequins, et tu vas pouvoir lancer ta carrière. Et en fait, la meuf a fait ça, et c'est exactement ce qui se passe. Vénus, Félix. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est une dimension de Vénus, je trouve, qui est vachement moquée, vachement décriée. Aujourd'hui, c'est clairement l'inverse de la Vénus Félix qui existe dans notre société. Aujourd'hui, les mannequins, elles vont pourchasser leurs agents au lieu de se laisser découvrir. Donc on vit quand même dans un monde qui est légèrement différent et avec des problématiques qui sont quand même légèrement différentes des problématiques des Romaines à l'époque. Ensuite, on a la Vénus Verticordia. Et en fait, c'est la Vénus qui change les cœurs. C'est une Vénus qui inspire l'amour, la vertu et qui encourage la transformation personnelle pour des relations plus profondes. Et donc, vous vous en doutez, ici, ça va être une Vénus qui va vraiment influencer les personnes qui ont des problèmes de cœur. Donc, je pense notamment aux personnes qui sont... ne le prenez pas mal et ne le prenez pas personnellement, mais voilà, tous les radins, tous les gens un peu coincés. Moi-même, je me mets dans cette catégorie, hein, parce que je viens de réaliser que j'ai bu tout mon chèque de protéines maintenant, mais en fait, je vais pas la faire aujourd'hui, donc ça va. Ouais, c'est les radins, c'est les coincés du HUC, c'est... toutes ces personnes qui ont des blocages émotionnels qui les empêchent d'accéder à l'amour véritable, quoi. Et je me mets dans cette catégorie parce que j'ai des blocages émotionnels qui m'empêchent d'accéder à l'amour véritable avec Saturne en maison 5 en poisson. Beaucoup de désillusions autour de l'amour, hein. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un grand romantique. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi beaucoup de blocages, hein. J'ai des gros problèmes à éprouver du bonheur, du plaisir. Donc, je ne parle pas de sexualité ici, mais vraiment, si vous me mettez dans un Club Med... Si c'est pas les gens du Club Med qui me disent « En fait, tu peux incliner ton siège comme ça et vraiment être à l'aise, t'as le droit à un massage gratuit, mais va profiter de la piscine, mais sors, prends le soleil, etc. » Je vais jamais le faire par moi-même. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que c'était un avantage parce qu'en fait, je regardais les gens autour de moi et je me disais « Ah là là, quelle bande de merde !» tout le temps en train de kiffer, tout le temps à la plage, tout le temps en vacances, tout le temps machin, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et en fait, j'ai grandi et j'ai vieilli en étant une personne hyper sérieuse, rigoureuse, qui bosse tout le temps. Et en fait, on devient fou. Moi, j'ai fait un burn-out, mais tellement jeune. Voilà, et une crise existentielle, et une crise spirituelle. Et, enfin, parce que vous imaginez bien que les personnes comme moi, quand on est en crise, c'est des grosses, grosses crises. Enfin, en tout cas, il faut soulever, il faut faire péter plein de verrous avant d'arriver au moment de crise. Donc, au moment où on y arrive, c'est vraiment catastrophique, cataclysmique même. En plus, je suis scorpion en maison 1, donc c'est toujours une mort pour moi. Et ouais, en ça, je trouve que le principe de Vénus-Félix et de Vénus-Verticordia me va bien. En tout cas, je trouve que c'est, voilà, c'est vraiment un archétype de Vénus qui permet de changer les cœurs, en fait. En plus, je parle au passé parce que depuis mon baptême, justement, j'ai l'impression d'être libéré de ça ou au moins d'avoir pris conscience, en fait, de ça, que la vie, elle est là aussi pour être appréciée. On a le droit d'être heureux. On a le droit d'éprouver du bonheur. On a le droit d'éprouver du plaisir. Mais vraiment, ouais, je pense que je me suis tellement habitué en tant qu'enfant pour de la survie à tout le temps choisir le chemin le plus pénible, à tout le temps faire la chose la plus difficile et pas la chose la plus facile parce que je me disais juste, plus tu vas faire des trucs difficiles et plus les choses vont devenir simples, en fait, pour toi. Et voilà. Et du coup, bah, vraiment, dans cette configuration, je me suis dit, bah, cette Vénus-là, la Vénus Verticordia, elle me rappelle beaucoup mon propre parcours personnel dans le monde vénusien, entre guillemets, en sachant que je suis un peu bâtard, puisque j'ai Mars dans le signe de Vénus, et ma Vénus, elle est dans un signe qui est neutre, le cancer. Mais voilà, un peu bâtard, Mars dans le signe de Vénus, donc assez martien pour exister, mais en même temps, trop vénusien pour être considéré parmi les signes voilà, que Mars aime d'habitude, quoi. Ensuite, on a, ça va vous faire rigoler, la Vénus Calva. Et pour les personnes qui ont fait du latin à chaque fois, donc vous captez ce que je veux dire, donc ça me fait marrer. Hein. La Vénus Calva, c'est la Vénus chauve. Et en fait, c'est une Vénus qui est liée, c'est une Vénus qui est très moderne, en fait, quand on y pense, surtout par rapport aux problématiques actuelles. C'est une Vénus qui est liée à la beauté intérieure. Et en fait, elle suggère vraiment de trouver la valeur au-delà de l'apparence physique. Vous vous doutez bien que c'est l'une des Vénus les plus élevées spirituellement. Et l'une des Vénus, j'ai envie de dire, même les plus endurantes, parce que cette notion de beauté, elle existe encore aujourd'hui, en fait, ce truc de se débarrasser, en fait, des apparats et des apparences trompeuses, en plus, souvent, de Vénus, pour se concentrer sur une beauté qui est plus authentique et qui reflète depuis l'intérieur. Vénus Calva. Ensuite, on a la Vénus Armata, et c'est la Vénus des armées, et elle incarne la force dans l'amour, conseillant de défendre ses convictions en tout temps et en cultivant des relations qui sont équilibrées et stratégiques. Donc, c'est vraiment la Vénus conquérante qui part vraiment à la conquête des cœurs. Et en fait, au-delà de ça, je trouve que cette Vénus, elle transforme un petit peu justement le domaine de l'amour et elle rentre un petit peu plus dans d'autres domaines où les relations sont capitales pour obtenir du pouvoir, pour obtenir de l'argent, pour obtenir de l'influence. Et c'est évidemment la politique. C'est le monde culturel, c'est le monde politique où on doit fonder et former des alliances pour pouvoir arriver à nos objectifs, quoi. On ne peut rien faire seul. Il faut qu'il y ait une coopération stratégique. Et cette Vénus Armata, c'est l'une des meilleures Vénus pour ça. Je trouve qu'elle me rappelle beaucoup cette Vénus, l'archétype de Mars en Balance, justement, où on a, toujours dans des énergies vénusiennes, peut-être une approche un peu plus martienne des choses. Ensuite, toujours dans cette configuration vénusienne, on a la Vénus Castinia. Et en fait, la Vénus Castinia, elle est hyper intéressante parce que c'est une Vénus qui est chaste. C'est une Vénus qui va encourager le respect de soi et des autres. Attendez, parce que j'ai des reflux immondes de mon lavabo. Et en fait, je suis tout le temps obligé de, voilà, de boucher le lavabo. Donc là, je vérifie juste que ça pue tellement qu'il est bien bouché. Ouais, c'est pas très glam, hein, mais on va bien faire ce qu'on doit faire. On doit bien faire ce qu'on doit faire. C'est horrible. En plus, ça me donne envie de bégère. Horrible. Donc, la Vénus Castinia qui encourage le respect de soi et des autres et qui offre des conseils sur la préservation de l'intégrité personnelle. Ensuite, on a la Vénus Murcia, qui est la Vénus qui murmure en fait à l'oreille et qui symbolise la discrétion dans l'amour, hein, suggérant de cultiver la confidentialité, le respect des secrets. Dans toutes les relations d'ailleurs, hein, parce qu'on parle d'amour, mais c'est dans toutes les relations. Ensuite, on a la Vénus cloacine. Et donc ici, c'est une Vénus qui est associée à la purification. C'est une Vénus qui est associée... elle conseille en fait sur la nécessité de nettoyer les aspects néfastes dans une relation. Un peu, c'est un peu la Vénus des égouts, quoi. Qui est là pour nettoyer, purifier, mais c'est vrai que dans son stade originel, la Vénus cloacina, elle montre quand même une situation qui est un peu bouchée, un peu comme mon évier. Voilà, d'ailleurs, il n'est même pas bouché, c'est juste que vraiment, les canalisations ici au Brésil, c'est les enfers, en tout cas dans la partie du Brésil où je me trouve, hein, je ne vais pas importuner les Brésiliens, mais ouais, c'est les enfers, vraiment, ville côtière, Dieu seul sait ce qu'il y a dans ces canalisations, frère. Enfin, tout ce que je sais, c'est que l'odeur, elle est horrible, donc voilà. Donc Vénus cloacina, peut-être que je devrais appeler un plombier, ou quelqu'un pour purifier un petit peu ces canalisations, quoi. Ensuite, on a la Vénus Urania ou Vénus Caelestis. Caelestis. Et donc, c'est évidemment, vous l'aurez deviné pour les personnes qui ont fait un peu de latin et qui sont plutôt futées, c'est la Vénus céleste. Et en fait, elle représente vraiment la protection féminine sacrée. Elle offre des conseils sur la création d'environnements qui sont aimants. Et sûr, il y a quelque chose de divin, en fait, dans la Vénus Caelestis. On est moins, peut-être, dans l'humain et beaucoup plus dans le rapport, en tout cas, que les êtres humains entretiennent avec Dieu, mais par le prisme de la féminité de Vénus. Et enfin, on a la Vénus Libitina, et c'est la Vénus des funérailles. Et en fait, cette Vénus, elle est vachement associée à la mort et à la transition. En ça, elle se rapproche, évidemment, de l'archétype de la Vénus en scorpion. Et c'est une Vénus qui suggère d'accepter les fins pour permettre de nouveaux départs dans l'amour. Et si vous connaissez des nanas qui ont leur Vénus en scorpion, vous saurez que c'est vraiment des meufs qui s'accrochent jusqu'au bout, quoi. Vous voyez l'image du héros qui s'accroche au toit d'un bâtiment avant d'être poussé par le méchant et tout dans le vide. C'est vraiment la Vénus en scorpion dans ses relations. Et donc, il faut se méfier de ce côté un peu jusqu'au boutiste. Et parfois, il faut accepter en fait les défaites. Et justement, si on a une approche un peu militaire de l'amour, accepter ses défaites, rassembler ses provisions et ses munitions et ses hommes et battre en retraite, en fait, pour pouvoir peut-être revenir un jour un peu plus fort, un peu plus conquérant et récupérer ce qui nous est dû, quoi. Mais pour ça, il faut avoir la sagesse d'accepter, en fait, la défaite et d'accepter aussi la fin de ce chapitre. Donc voilà un petit peu pour les différents archétypes de Vénus. Je suis content parce que j'ai passé un peu moins de temps que ce que je pensais que ça allait durer. Et voilà, donc si vous avez des questions sur votre propre thème et sur votre propre énergie vénusienne et sur l'archétype qui vous correspond le mieux, évidemment, il y en a d'autres encore dans ma réserve, je suis votre gars. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou de directement aller sur le site internet et de dire ce que vous voulez dans le chat, dans le formulaire. Et moi, je serais ravi de vous répondre par rapport à tout ça. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode sur Vénus. Je suis très content de parler d'amour et de féminité sur le podcast parce que j'ai vraiment un rapport à tout ça qui est complètement différent depuis mon baptême. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me prends un peu moins la tête, en tout cas, par rapport à ça. Donc, si ça peut... faire bénéficier certaines personnes, je suis plus que ravi, quoi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, merci à tous les Patreons pour leur soutien et on se retrouve très vite sur le podcast.